Bonne soirée à chacun d'entre vous pour cette étude biblique, cette lecture biblique dans le livre de l'Apocalypse. Alors c'est vrai que c'est un livre qui fait un peu peur. Bon, rien que le terme d'Apocalypse, déjà, ça fait peur. On pense à une gigantesque météorite qui peut tomber sur la Terre ou un tsunami, je ne sais pas quoi. Enfin voilà, c'est un peu l'idée qu'on peut s'en faire. C'est aussi un petit peu l'idée que s'en font les lecteurs de la Bible, car ce n'est pas parmi les livres les plus faciles. Donc on attaque ces textes, ces récits avec toujours un petit peu de un peu de peur, de se dire voilà, qu'est-ce que je vais trouver là-dedans, comment ça pourra être nourrissant pour mon existence, ces histoires de dragons, de trompettes, de villes qui tombent du ciel. C'est toujours des choses qu'on se dit comme étant compliquées, comme étant difficiles à appliquer à notre propre existence. Or pourtant, bien entendu, l'Apocalypse, comme tout le reste, comme tous les autres textes de la Bible, parle de nous, évidemment. Et leur intérêt, c'est pour le temps présent, c'est-à-dire qu'il y a certains textes de la Bible qui sont des livres historiques, par exemple, qui parlent du roi Esdras ou je ne sais pas quoi. Bon, nous, quand nous lisons ces livres, même si ça parle d'un roi qui a vraiment existé, Nabucodonosor, je ne sais pas qui, c'est pas tellement en historien que nous allons lire ces textes, nous y cherchons quelque chose pour notre existence à nous. Et même quand ça parle d'un texte d'une histoire passée, ça a été réécrit pour que ces textes aient une pertinence pour notre propre existence. C'est encore plus le cas pour l'Apocalypse. Est-ce que ça parle d'une histoire passée, c'est-à-dire des gens cherchent à y décrypter, y trouver Néron, y trouver je ne sais pas qui? Moi, j'ai de grands doutes, si vous voulez. Je pense qu'il s'agit plus d'une prédication pour le temps présent, pour chaque temps présent, pour chaque génération. C'est simplement un autre mode narratif, on pourrait dire. Il y a le mode du poème, il y a le mode du chant, il y a le mode de l'évangile, finalement, hein, qui raconte l'histoire de Jésus. Il peut y avoir un mode historique, il peut y avoir un mode de la lettre, comme celle de l'apôtre Paul. Mais il y a aussi le genre apocalyptique. Alors nous en connaissons un certain nombre, il y en a dans l'Ancien Testament, il y en a même dans les évangiles que nous connaissons. Il y a des passages qui sont de l'ordre de l'Apocalypse, aussi bien dans l'évangile, dans les quatre évangiles, en fait, il y a des passages qui ressemblent, qui sont dans ce genre littéraire de l'Apocalypse. Alors c'est un genre littéraire, mais c'est toujours une prédication, c'est-à-dire que spécialement l'Apocalypse, j'allais dire, au même titre que l'Évangile, ça annonce le salut en Jésus-Christ, de toute façon. On l'annonce en évoquant la vie de Jésus-Christ, ou on l'annonce autrement, avec ce genre un peu fantastique, mais c'est toujours la même question, ça parle finalement de notre vie à nous. Et quand on parle d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, la nouveauté, ça parle d'une nouveauté de vie qui parle de notre conversion finalement, qui parle d'une vie nouvelle qui est celle de notre vie actuelle, de notre vie quotidienne, de l'être que nous sommes, mais avec ce renouvellement de l'existence qui est donné par l'Esprit, qui est donné par la foi en Jésus-Christ, qui est donnée par grâce. Voilà. Donc, il n'y a vraiment rien à craindre de ça. C'est, comme son nom l'indique, mais là, c'est peut-être trompeur, pourquoi est-ce qu'ils ont mis Apocalypse, en fait? En anglais, c'est révélation, et c'est bien ça. Le terme même d'Apocalypse, c'est devenu quelque chose d'un peu mystérieux, qui parle de catastrophe terrible, mais en fait, ce mot même veut dire révélation, donc il s'agit de la révélation du salut en Jésus-Christ qui vient transformer notre existence, transformer notre monde. Il n'y a rien de plus, qui nous concerne plus, voilà, finalement. Ce n'est pas simplement donc l'annonce des persécutions du temps de Néron, en y reconnaissant tel personnage. Ça ne parle pas non plus de la vie future, voilà, de quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui est en train d'arriver dans notre existence. Mais là, souvent, les traductions sont trompeuses. Et, par exemple, dans le, dans la conclusion, les derniers mots finalement de l'Apocalypse, hein, c'est au chapitre 22, bon si vous l'avez, mais on vous le lira de toute façon. Ça se termine par « Voici, je viens bientôt », disent nos traductions. Mais la traduction est trompeuse, il n'y a pas marqué ça, il y a marqué « Voici, je viens à toute vitesse ». Je suis en train de venir, il n'y a pas marqué « Je viendrai bientôt ». Il y a marqué « Je suis en train de venir à toute vitesse ». Donc c'est l'annonce de l'Évangile, voilà, le royaume de Dieu s'approche en Jésus-Christ, il s'est approché en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est là, présent, Jésus-Christ nous dit, il est là, au-dedans de vous ou au milieu de vous. C'est-à-dire le royaume de Dieu, il est à discerner ici et maintenant, il est en même temps déjà là et en même temps encore en train de venir. C'est de ça que parle l'Apocalypse, bien entendu, de ce présent, de la venue de Dieu. Alors cela dit, c'est sous un genre fantastique que nous connaissons aussi. D'ailleurs, à la FNAC, on peut aller au rayon de la science fantasy. Il y a aussi de l'heroic fantasy, c'est des romans, voilà, qui parlent aussi avec des dragons, avec des bouleversements, avec des planètes qui explosent, avec des rivières de feu, des je ne sais pas quoi. Donc c'est un genre narratif qui existe encore et qui a existé bien avant Jésus-Christ et qui a donc existé aussi. Alors c'est un genre narratif qui était assez à la mode finalement dans les périodes troublées particulièrement. Je sais pas, c'est comme ça. Ça peut sembler mystérieux, ça l'est beaucoup plus pour nous aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. Parce que, si vous voulez, il y a des codes symboliques qui sont très faciles dans une culture, mais quand on est dans une autre culture, dans une autre époque, ça devient difficile. Par exemple, le corbeau et le renard, bon, on comprend de quoi on parle, que La Fontaine n'a pas cru une seconde qu'il y avait un corbeau qui parlait à un renard qui parlait, si vous voulez, et puis qu'il y avait un corbeau qui tenait un camembert dans son bec. Mais le corbeau, le renard, le loup, l'agneau, le lion, bon, ça a des connotations dans notre culture qui sont évidentes. Bon, dans une autre culture, si on va chez les Esquimaux, ils n'auront jamais vu peut-être de renard ou de corbeau. Je ne sais pas s'il y a des renards au Groenland. Si, il faut demander à Jean-Claude. Si, alors ils connaîtront peut-être les corbeaux et les renards. Si. Il y a d'autres pays peut-être où les codes ne seront pas les mêmes. Alors là, bon, les codes étaient relativement faciles. C'est des codes, un jeu de symboles, un jeu littéraire finalement. Ce n'est pas une gnose. Vous voyez, il y avait à l'époque du Nouveau Testament des religions gnostiques, c'est-à-dire des religions à mystère avec des textes secrets ou des textes codés. Ça pouvait arriver. Ce n'est pas du tout le cas dans la culture, je dirais, chrétienne de cette époque-là. Non, l'Évangile est fait pour être crié sur les toits. Il n'y a pas dans le christianisme, dans l'Évangile, de connaissances secrètes qui seraient réservées à certains, qui seraient cachées, etc. Non, absolument pas. Simplement, c'est sur un mode imagé, avec un jeu de symboles qui était très clair à l'époque, qui l'est moins maintenant. L'avantage de ce jeu symbolique, si vous voulez, c'est que, justement, ça facilite une interprétation personnelle. Si on est trop pragmatique, trop au ras de notre existence à nous, eh bien, ces textes qui sont au ras de notre existence à nous vieillissent très vite. C'est-à-dire, dans trois générations, les mots ont changé, la culture ont changé, les questions qui se posent ont peut-être un peu changé, et du coup, ces textes vieillissent très vite. Ces textes-là, comme c'est raconté d'une façon imagée, eh bien, ça facilite peut-être particulièrement l'interprétation personnelle pour qu'on arrive à se laisser rejoindre finalement par ce message. Donc je crois que dans un certain sens, il y a, c'est vrai, pour nous un effort plus grand qu'à l'époque pour pénétrer ces textes, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle car ça peut permettre vraiment de recevoir l'Évangile. Bon. Par ailleurs, quand on regarde sur Internet, par exemple, l'Apocalypse, eh bien, ça fait les choux gras de tout un tas de sectes ou d'églises chrétiennes qui sont tout à fait friandes de ce genre de texte, car ça, pour une église qui veut faire jouer le levier de la peur, de la crainte de Dieu, de la crainte de son jugement, Alors, c'est du pain béni, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est vraiment génial. On peut faire peur aux gens avec ça. Donc, pour une secte moyenne, c'est génial. On peut l'utiliser pour faire des menaces. Et la menace, ça paraît étrange dans le cadre de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, l'amour de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mais la menace fonctionne quand même hyper bien. C'est-à-dire qu'en utilisant la menace, on peut faire venir les gens dans son église et faire remplir les caisses de l'église. J'allais dire, il faudrait y penser. Mais c'est vrai que, bon, nous, voilà, c'est pas le genre de lecture qu'on fait, bien entendu. Donc, la clé de lecture de ces textes, eh bien, c'est d'y chercher l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut de Dieu, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ.
Alors, je vais compléter ce que tu viens de dire. En ajoutant qu'il y a effectivement une façon de lire ces textes. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler une lecture canonique, qui est beaucoup proposée actuellement, c'est de replacer ce que nous essayons de faire depuis le début, les textes dans l'ensemble de la Bible. Ça nous permet d'éviter un certain nombre d'écueils. Ce texte n'a pas été reçu canoniquement par hasard. C'est-à-dire que, même s'il a une forme un peu étrange, ce qu'il y dit correspond tout à fait à l'aventure biblique. Et je crois que notre thématique des cités bibliques va nous y aider. Parce que justement, nous avons commencé entre Babel et Jéricho, entre Nazareth et Capharnaüm, et nous sommes déjà allés à Jérusalem. Et cette Jérusalem qui nous est décrite là est une Jérusalem qui nous dit beaucoup de choses de la ville des hommes dans le royaume. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, plus particulièrement pour le Nouveau Testament et a fortiori pour cet ouvrage qui est le dernier, une lecture éminemment christologique. On est effectivement dans le cadre de la mort et la résurrection du Christ qui détruisent à jamais la mort. On est dans ce fameux « déjà là » du Christ et dans ce pas encore qui reste encore à expérimenter chacun dans nos vies. Et à sa façon, l'auteur de l'Apocalypse essaye d'y répondre comme un saint Paul nous décrit les gémissements de l'enfantement de l'homme nouveau, comme nos évangélistes essayent de nous décrire ce royaume qui s'est approché, et comme le Christ, à travers ses paraboles et à travers tant de récits, a tenté de nous l'expliquer. Donc nous sommes bien dans cette même veine. Oublions donc le fantastique, même si c'est une façon comme une autre de nous y alerter, et peut-être une autre façon d'y entrer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous entrons dans une ville, là encore, qui s'appelle Yerushalayim, Jérusalem, et qui recevra ou reçoit des hommes de toutes les nations. C'est en quelque sorte la vraie réussite du Jérusalem du Christ, de la Jérusalem du Christ, qui, j'allais dire, se débarrasse de tout ce pourquoi il y a eu toute cette histoire, toute cette vie de cet homme pour en faire la Jérusalem idéale, parce que c'est la Jérusalem que nous atteindrons à la suite du Christ. Et donc, d'où l'intérêt de comprendre à travers toutes ces descriptions à quel point nous sommes concernés chacune et chacun dans notre idéal, dans notre destinée d'amour en Christ. Et c'est au fond cette description qui s'adresse à nous-mêmes, effectivement, éminemment présente, que nous allons maintenant reprendre. Alors on va l'écouter dans le texte Bayard, une fois de plus, c'est-à-dire un texte littéraire et poétique qui correspond tout à fait au genre du récit. Puis après, nous allons dépiauter, décortiquer, selon cette lecture canonique, christologique, et on va voir qu'une fois encore, on va faire toute une aventure biblique autour de ce texte.
Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en sont allés, et la mer n'est plus. La ville, la sainte, La Jérusalem nouvelle, je la vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, apprêtée comme une fiancée, parée pour son époux. J'entendis une voix forte venant du trône. Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il dressera sa tente avec eux, et ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort désormais ne sera plus. Deuil, cris, douleur désormais ne seront plus, car les premières choses s'en sont allées. Celui qui siège sur le trône dit : Voici, je crée toutes choses nouvelles. Il dit encore : Écris, ces paroles-ci sont fiables et véridiques. Et il me dit : Elles sont arrivées. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi, celui qui a soif, je lui donnerai à boire la source des eaux de la vie, gratuitement. Le vainqueur héritera de cela. Pour lui, je serai Dieu, et il sera pour moi un fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux abominés, aux meurtriers, aux prostituées, aux empoisonneurs, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et vint l'un des sept messagers qui tenait les sept coupes, celles qui étaient pleines des sept fléaux, les derniers. Il me parla ainsi : Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Par inspiration, il me transporta sur une haute et grande montagne et me montra la ville, la sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Elle éclatait de lumière comme une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une épaisse muraille élevée, avec 12 portes, et à celle-ci, 12 messagers et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Septentrion, 3 portes. Au Midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations, et sur elle, les 12 noms des 12 envoyés de l'agneau. Celui qui me parlait avait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes, sa muraille. La ville était quadrangulaire, sa longueur égalant sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau sur 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura sa muraille, soit 144 coudées, mesure d'homme, mesure de messager. Le revêtement de sa muraille était de jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre limpide. Les fondations de la muraille étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes, 12 perles. Chacune des portes était faite d'une perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu, le puissant sur tout, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a nul besoin que le soleil et la lune brillent sur elle. La gloire de Dieu l'illumine, et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière. Les rois de la terre lui apportent leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de jour. En fait, il n'y aura pas de nuit. On lui apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni aucun faiseur d'abomination, ni aucun menteur, mais seuls ceux qui sont inscrits au volume de vie de l'agneau. Puis, le messager me montra un fleuve d'eau, de la vie resplendissante comme du cristal, et qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et des deux bras du fleuve, un arbre de vie fructifié 12 fois. Chaque mois, il rend ses fruits, et les feuilles de l'arbre servent à guérir les nations. Il n'y aura plus de malédiction désormais. Le trône de Dieu et de l'agneau sera là, et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage, son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit désormais. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les éternités des éternités.
Je suis allé trop loin.
Non, c'est ça, c'est bon. C'est la fin du texte, elle est jusque-là, en fait.
Voilà, on a entendu quelques versets du chapitre 22, dont il ne fallait pas se séparer, car au fond, comme vous le savez, les éditeurs bibliques ne sont pas les rédacteurs, et donc la manière de découper la Bible a pu changer d'une fois l'autre, d'un éditeur l'autre, et parfois les textes se chevauchent d'un chapitre à l'autre. Donc il ne fallait pas le tronquer, d'autant que certains éléments de lecture nous viennent précisément du début du chapitre 22. Je n'en citerai qu'un. Vous aurez reconnu une allusion normale d'ailleurs à la Genèse et au jardin d'Éden. Et c'est très clair que cette création nouvelle, c'est le retour à la création inaugurale. C'est en quelque sorte la réussite de la créature à l'image de Dieu qui revient dans ce grand dévoilement. Alors maintenant, nous allons regarder ça de plus près.
Oui, tu as raison de dire le retour à cette création inaugurale, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que là, on voit particulièrement bien que la création de Dieu est continue, qu'il est en train de continuer à créer. On voit qu'il y a encore, quand ils disent que la mer ne sera plus là. La mer, on la voit dans les premiers mots, dans le premier verset de la Genèse, c'est le chaos primordial qui préexiste, en fait. On croit parfois que Dieu a créé le monde, on dit ex nihilo en français, c'est-à-dire à partir de rien du tout. En fait, c'est pas si évident dans la Bible. Il semblerait, en tout cas, dans le commencement, c'est comme ça, en tout cas, que commence la Bible. Il y a du chaos, et puis Dieu, avec son esprit, nous dit le premier verset de la Bible, eh bien, opère une mise en ordre, écarte un peu ces flots pour que la vie soit possible et bonne. Et alors ensuite, il y a le récit de la création du monde, de la création de l'homme. Il y a un deuxième récit de création avec le jardin d'Éden, avec l'arbre de vie, avec Adam et Ève, avec la chute. Mais, si vous voulez, cette histoire de la création de l'homme, on voit que finalement, elle se réalise enfin dans ce dernier chapitre de l'Apocalypse, dans ce dernier chapitre, dernière phrase de la Bible. Et donc, je crois qu'il faut se souvenir que Dieu est encore en train de créer le monde, que le monde est en Genèse, que nous sommes en Genèse. Ça, je crois que c'est important, parce que les mêmes lecteurs, finalement, qui font de l'Apocalypse une menace, souvent, ils lisent le premier chapitre de la Genèse comme étant de l'histoire ancienne, avec un Adam et une Ève qui auraient existé il y a des milliers d'années, etc. Alors que Adam et Ève, l'Adam véritable, c'est le Christ finalement. Et l'histoire de la création de l'homme et d'une humanité réconciliée avec Dieu dans sa bénédiction qui vit dans le jardin d'Éden, Eh bien, on le voit dans cette description, comme tu le disais, Hervé, hein, à mon avis, dans le début de ce chapitre 22, on voit que enfin, finalement, l'humain est créé et peut vivre en harmonie avec Dieu et dans ce monde. Donc, oui, cette histoire de création continue du monde en Genèse, je crois que c'est fondamental d'abord parce que ça correspond à ce que raconte la Bible, à mon avis, mais aussi parce que c'est quand même un des éléments fondamentaux de compréhension de l'existence du mal en ce monde. On dit, mais que fait le bon Dieu s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas toutes ces maladies, ces catastrophes, etc. Ben, en fait, si, parce que Dieu y travaille. C'est une création qui est encore en cours. Il reste encore du chaos pour l'instant, finalement. Et on le voit quand quelqu'un attrape un cancer. Quand un enfant, par exemple, le pire, un enfant attrape un cancer, je veux dire, c'est pas parce qu'il a trop fumé de cigarettes ou parce que machin, non, c'est parce qu'il y a des dérèglements. Il reste encore du chaos dans la nature. On le voit dans les catastrophes naturelles, etc. Bon, là, on nous dit que enfin, finalement, la mer a disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chaos dans notre existence. Il y a plus. Alors, en nous-mêmes, il y a du chaos aussi, et on a bien besoin de cette genèse pour que ce chaos soit mis en ordre. C'est une domestication, dans un sens. C'est un supplément d'être, un supplément de création qui vient, que l'esprit donne. Donc, je crois que c'est de ça dont parle ce texte, et oui, je crois qu'Hervé, c'est intéressant de noter que nous sommes là dans une relecture de la genèse, une interprétation de la Genèse qui est très classique et qui dit que la Genèse parle de quelque chose qui est en train de se réaliser dans notre existence et dans notre monde, la création, enfin, de ce que Dieu projette depuis toute éternité.
Oui, et en même temps, on peut parler, au fond, c'est un peu la même chose que d'expliquer la résurrection. C'est compliqué, hein. Au moment de Pâques, bien des petits-enfants vous demanderont sans doute qu'est-ce que ça veut dire que le Christ est ressuscité. Et c'est assez difficile d'expliquer la résurrection, au fond. Et je crois qu'il en est de même pour ce ciel nouveau et cette terre nouvelle. Cela procède du même mouvement. Il y a l'idée de la disparition d'un monde ancien, vous savez, et on retrouve beaucoup Paul. On retrouve beaucoup, beaucoup Paul. L'ancien monde a péri par l'eau. Celui qui est à présent était réservé au feu. Et pourtant, cette nouvelle Jérusalem n'est pas surgie des cendres de l'ancienne. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, justement. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé et de passer à autre chose en ayant tout fait périr, etc. Non, c'est vraiment susciter une nouveauté radicale. Et c'est là que l'on retrouve le Christ, qui est précisément celui qui, dans l'humanité, suscite cette nouvelle humanité. Cela se voit, par exemple, lorsque dans ce monde, dans cette cité qui descend du ciel de chez Dieu, il y a une nouvelle ville qui est parée pour son époux. Nous sommes au royaume, nous sommes à la noce, et Jésus emploie souvent cette image. Vous savez, il n'y a pas de deuil lorsque l'époux est là. Vous savez, il faut s'y préparer. Des noces de Cana jusqu'à toutes les noces du royaume, où sont invités et où ne sont pas les bons invités qui viennent à la noce, etc., etc. Il y a quand même cette idée. Il y a cette idée, et celui qui est l'alpha et l'oméga, il donne la source de vie. Là encore, on retrouve tellement, mais on retrouve Paul, on retrouve Jean, on retrouve nos évangélistes, et on retrouve tout le récit biblique, on retrouve le déluge, on retrouve... C'est un peu un melting pot, en quelque sorte, c'est un peu un remix de l'ensemble, de manière éminemment poétique. Je crois que c'est un... Il faut aussi admettre qu'il y a des vocabulaires différents, des styles différents, et peut-être une façon peut-être plus artistique de dire la même chose. Une chose qui est difficile, difficile à dire. Et là, nous sommes dans l'ordre de la vision, comme les visions des prophètes, vous savez. Et donc, il s'agit de décrire clairement, au fond, notre monde ressuscité. Alors, la grande question, bien sûr, c'est de savoir mettre un temps à ce monde. Et là, on peut ne pas être tout à fait d'accord. Je me souviens ici même que tu avais déclenché un certain effroi en disant que nous étions tous déjà ressuscités. Et à nous regarder comme ça, on se disait que ce n'était pas toujours évident. Et je crois qu'on peut repartir sur cette idée à propos de ce texte.
Oui, alors effectivement, je crois que souvent quand on regarde de près, en particulier, au rat du grec et de l'hébreu, la résurrection, on en parle au passé en fait. Hein, c'est Paul qui dit « Vous êtes ressuscité en Christ ». Voilà, donc ça parle du présent. Alors j'ai un autre, ce que tu disais me faisait penser là, parce que c'est la même veine théologique, spirituelle. Quand on dit que l'Apocalypse est écrite par Jean, c'est peut-être vrai. Oui. En tout cas, c'est probablement vrai, moi je dirais. C'est un peu le courant, c'est l'école de Jean. Donc quand on lit le chapitre 3 de Jean, vous savez, il parle justement d'une nouvelle naissance. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau, vous naissiez d'en haut, hein, le vent. Donc c'est l'Esprit de Dieu, je veux dire, souffle où il veut, tu en entends le bruit. En vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, voilà. Et puis alors il y a Nicodème qui ne comprend rien, et Jésus lui dit, c'est un peu lassant finalement, nous dit Jésus, dans un sens, hein, j'exagère un petit peu, mais c'est ça. Si vous ne croyez pas quand je vous parle ainsi des choses terrestres, comment croirez-vous les choses célestes? Donc, quand Jésus parle d'une nouvelle naissance, d'une naissance d'eau et d'esprit, d'une naissance de nouveau, finalement, d'une nouveauté de vie. Il ne parle pas de la vie future, de la vie dans l'au-delà. On s'en fiche, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, c'est de vivre cette nouveauté de vie dans cette vie sur Terre, dans ce monde-ci. Et donc, tu as bien raison, je crois, de dire, il y a en même temps l'annonce que les premières choses, finalement, hein, la première terre, le premier ciel ont disparu, mais pourtant, ce n'est pas un rejet de ce monde-ci pour que nous soyons tendus vers le monde de l'au-delà, le monde futur, non. C'est un renouvellement de notre façon d'habiter ce monde-ci, un renouvellement de notre façon d'être en relation avec les autres, de vivre notre existence sur Terre. Et ça, je crois que c'est... Quel exemple donner, si vous voulez? Moi, je vois des gens, par exemple... C'est pas pour justifier le cancer dont je parlais tout à l'heure, mais il y a des gens qui traversent, qui frôlent un accident, qui traversent une maladie, et qui ont après une toute autre façon de voir l'existence, qui ont été extraordinairement bonifiés par cette épreuve difficile, qui du coup jouissent de chaque matin qui s'offre à eux comme un cadeau incroyable, et qui sont qui voient l'existence différemment. Alors c'est pas pour justifier la maladie et les épreuves, mais c'est pour donner un exemple d'un événement qui donne un autre point de vue, une autre façon d'être. Et je crois que c'est bien ça qui est en question. Dans Paul, c'est peut-être plus trompeur encore. Il parle, la vie dans la chair et la vie selon l'esprit. Ou bien parfois dans Jésus-Christ, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais pourtant, dans le chapitre 3 dont je viens de vous lire un petit morceau, il y a marqué, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pour qu'on ne meure pas, qu'on vive maintenant de la vie éternelle. Donc il n'y a pas de mépris, de rejet du monde, il y a une nouvelle façon de l'habiter et de le vivre qui est proposée, en étant en même temps dans le monde, mais en même temps hors du monde, par une inspiration, par un souffle, par une qualité d'être et de vie peut-être, qui transforme notre façon de vivre ce monde. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est en cause ici. Ce n'est pas le rejet du monde pour devenir des gens qui vivraient dans un cercle fermé, ou qui vivraient complètement tendus vers la vie future, la vie dans l'au-delà, et en méprisant complètement la vie dans ce monde, en devenant des... Comme, vous savez, il y avait des moines, c'était surtout au IVe siècle, hein, les moines adamistes, vous savez, qui, bon, ils voulaient revenir à l'état d'Adam, parce qu'ils croyaient qu'il y avait un Adam, Monsieur Adam et Madame Ève. Donc ils gardaient leurs vêtements sur eux, ils ne se lavaient plus, ils ne changeaient pas de vêtements. Donc au bout de 2-3 ans, tout ça commençait à pourrir un peu, ils devenaient complètement à poil. Bon, de toute façon, je crois qu'on ne voyait pas grand-chose parce qu'ils étaient noirs, de toute façon, de crasse, donc ce n'était pas très grave. Mais enfin, bon, il y avait cette volonté d'être un peu comme ces sages hindous, complètement hors du... Voilà, une sorte de rejet du corps, de vie en dehors de ce monde, dans un spirituel pur. Je ne crois pas du tout que ce soit le programme. Ici, il s'agit bien de notre temps, de notre monde, mais habité différemment. Voilà, je crois que c'est ça.
Vas-y. Oui, alors je dirais que la dimension de ce texte, si elle est ainsi, il s'agit quand même de prendre un peu de hauteur. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la façon dont le récitant enfin, s'exprime, il y a une voix qui s'adresse à lui. Hein, vous voyez, c'en est fait, voilà, il y a l'alpha et l'oméga. Et voilà que le Seigneur, le Créateur, le transporte en esprit sur une montagne de grande hauteur et lui montre Jérusalem qui descend du ciel de chez Dieu. C'est-à-dire que le visionnaire a quand même un petit temps d'avance sur nous, qu'il voit des choses que nous ne voyons pas encore. Lorsqu'on voit des choses comme ça, on peut penser à tous les grandes figures bibliques. Moi, je pense tout de suite à Moïse qui va monter sur le mont Nebo pour contempler la terre promise avant de mourir, dans laquelle Josué va conduire le peuple et où lui-même ne se rendra pas. Ça, c'est dans le Deutéronome. Je pense à Jésus qui monte lorsqu'on va aux larmes du Christ, là-haut, qu'on monte au mont des Oliviers. On va regarder Jérusalem, justement, d'en haut. Je pense à tous ceux qui sont montés sur la haute montagne, à commencer par les trois disciples de la Transfiguration qui ont en quelque sorte un avant-goût de cette résurrection. Et je crois que ces visions qui nous sont offertes à travers l'auteur, qui sont comme toute vision littéraire, imagée, travaillée, codée, tout ce que vous voulez, mais essaye de nous faire partager, j'ai envie de dire, un feeling ou une expérience. Et à ce moment-là, je me suis mis à penser à Paul. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque nous avions traversé l'année Paul, nous avions trouvé un ou deux textes mystiques où il était question d'une élévation, d'un Paul qui avait eu comme des visions. Vous savez, alors, il y avait cette fameuse écharde dans sa chair dont on n'a jamais vraiment tout à fait compris ce dont il s'agissait. Et il y avait aussi cette extase mystique. Et je me demande si d'une certaine façon, alors je ne sais pas, en régime catholique, on trouve des visionnaires qui voient des choses, voilà, bon, qui sont souvent passées d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une façon de nous dire des choses que nous ne voyons pas dans notre dimension, dans notre espace-temps, et qui cependant, j'allais dire, nous entourent, et qui précisément font que cette cité sainte de Dieu, cette gloire de Dieu qui est si bellement décrite et dont on peut voir dans tous les versets la dimension splendide, la beauté et tout le sens que ça peut cacher, la grandeur, eh bien, au fond, il faut s'élever sur une haute montagne pour pouvoir la voir, c'est-à-dire la prière, c'est-à-dire vraiment la profondeur intime. C'est peut-être dans la plus grande et la plus intime de nos prières que nous touchons à sa dimension et à son contact. Et il me semble que on enlève tout ce côté fantasmagorique, enfin fantastique, pour au contraire voir quelque chose d'éminemment intime et profond. Quelque chose qui nous est donné d'une certaine façon à chacune et à chacun, à notre façon, dans notre façon de toucher
au spirituel et aux choses divines. Et ces auteurs, ces rédacteurs, comme les témoins de l'Évangile, comme tous les rédacteurs de la Bible, sont là pour partager leurs prophéties, leurs expériences, leurs visions au sens « voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai entendu ». Eh bien voilà, celui-là termine peut-être par quelque chose de très profond, qui est de l'ordre de l'indicible, et qui ne peut se dire qu'à travers la poésie, l'extraordinaire, et qui, au fond, ben voilà, est la partie divine que nous avons tous. Et il me semble qu'on y touche par morceaux.
Oui, moi, ça, je suis bien d'accord avec ce que tu dis, voilà, effectivement. C'est quand même, voilà, par la prière, tout à fait. Je crois que la montagne, hein, donc le verset 10 que tu nous lisais, hein, transporter en esprit, bon, il y a une minuscule, mais on pourrait volontiers mettre une majuscule, si vous voulez, hein, transporter en esprit sur une haute montagne, ça, à mon avis, effectivement, c'est explicitement une expérience mystique, une expérience de la prière. Mais moi, je dirais que, donc par la méditation de l'Écriture, par la prière, on peut, je crois, avoir un petit peu ce que, j'allais dire, ce que Dieu rêve, voilà, l'humanité que Dieu rêve. Mais même, je dirais, à travers un regard bienveillant, on peut regarder quelqu'un, on peut regarder sa propre existence et voir quelque chose de cet ordre, si vous voulez, quelque chose qui est de l'ordre d'une humanité nouvelle, d'une humanité vraiment qui nous laisse plein d'admiration, voilà. Et en regardant des gens, moi je ne sais pas, je trouve que les gens sont quand même plutôt adorables. C'est vrai, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont un comportement qui est tout à fait désagréable, mais je ne sais pas, quand on les regarde, même ceux-là finalement, avec un peu de bienveillance, on voit une souffrance, on voit un combat, on voit... Et puis même ces gens-là, ben, parfois, nous étonnent d'une bienveillance auquel nous n'avions pas habitué. Enfin, bref, je crois qu'on peut, oui, par la prière, mais par le cœur aussi, par la bienveillance, voir un peu quelque chose de cet ordre qui est de l'ordre d'une humanité vraie dans les personnes qu'on rencontre. Alors là où je crois que la prière peut aider, c'est que si à la fin d'une journée, eh bien, on rumine un petit peu ce qu'on a pu vivre dans sa journée, et avec l'aide de Dieu, peut-être qu'on pourra plus facilement discerner justement les traces d'une Jérusalem nouvelle qui était en fait là. Voilà. On peut peut-être contempler justement cela, et dans cette contemplation, eh bien, recevoir un petit peu de cette nouvelle création, et faire que notre cœur, du coup, soit un peu plus transformé par cet esprit de Dieu.
Alors, puisque tu décris cette beauté qu'il y a en face de nous, je vais utiliser les pierres précieuses qui nous sont décrites. On va passer un joli petit moment là, quelques instants, sur les versets des pierreries. Je suis sûr que mesdames, vous allez être très intéressées, et messieurs aussi, vous allez voir, parce que ce sont des très jolies pierres. Il y en a beaucoup qu'on a oubliées, mais vous allez voir. Lorsque nous sommes au verset 19 et 20, nous avons donc les pierreries de toutes sortes. Et je suis allé un peu regarder ce que c'est, et en fait, j'ai trouvé que toutes les couleurs étaient représentées. Alors, le jaspe, il nous vient d'Égypte. C'est une variété de quartz. C'est une pierre opaque rouge, jaune, verte ou noire. Alors le saphir, à l'époque, on va le chercher en Inde. C'est une gemme d'un bleu plutôt sombre. La chalcédoine est bleu ciel. L'émeraude, vous la connaissez mieux. C'est une variété de béryl verte. Le sardonyx ou l'onyx est translucide, un peu comme un ongle. D'où son nom d'ailleurs, blanc, gris, jaune, rouge, brun ou bleu. La sardoine est une variété brune ou rouge de la chalcédoine. La chrysolite est un silicate de magnésium et de fer, qui est plutôt rare d'ailleurs et qui a plutôt la couleur de l'or. Le béryl, c'est un silicate également que l'on peut colorer en vert, en bleu, en rose ou en jaune.
alors que la topaze est plutôt d'un jaune transparent. La chrysoprase, encore une variété de chalcédoine, mais à laquelle des impuretés de nickel donnent une couleur vert pomme. L'hyacinthe va du brun orangé jusqu'au rouge. Et l'améthyste est plutôt un quartz violet. Donc vous voyez que là, on utilise une gamme. Vous imaginez tout ce que ça peut représenter comme bijou, une telle ville. On a, je crois, même tous les joailliers de la place Vendôme n'ont peut-être pas de quoi réaliser la Jérusalem céleste. Ceci pour vous dire que ces évocations de pierres précieuses veulent donner toute la qualité à cette ville. On pourrait s'étonner d'ailleurs que le diamant n'y figure pas, mais c'est parce qu'à l'époque, il était plutôt connu pour sa dureté et sa résistance que pour sa beauté. Voilà, c'est un peu plus tard que les diamants ont orné. Et enfin, dernier élément et de taille, c'est que le sacrificateur, le souverain sacrificateur au temple, était portait un vêtement sur sa poitrine dans lequel étaient enchâssées 12 pierres précieuses de ces qualités-là. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on a quitté le temple de Jérusalem. Vous savez, il n'y a plus de temple, car le temple, c'est Dieu. Et dans la Jérusalem nouvelle, plus besoin de temple et plus de sacrifices et plus de médiation. Nous sommes en présence du Seigneur et de l'agneau. Voilà, nous sommes passés, j'allais dire, dans le contact, dans ce que l'on appelle ce face-à-face auquel nous sommes tous aspirés. Dans cette rencontre ultime entre Dieu et l'homme, et l'homme et Dieu, qui fait que nous sommes dans la béatification, dans le royaume. Voilà, donc on voit bien que, encore une fois, toutes ces choses qui peuvent avoir un aspect extrêmement merveilleux, extrêmement démonstratif, correspond à des choses profondément religieuses et nous disent beaucoup de l'état de prière et de béatitude à laquelle nous sommes appelés.
Alors effectivement, là, il y a le fait que ça soit l'ornement du grand prêtre, finalement, c'est le fondement de cette Jérusalem nouvelle, et qu'il n'y ait plus de temple, tu as raison, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que du coup, la religion, finalement, est mise comme un moyen et pas comme le sommet de la relation à Dieu ou de le sommet. Voilà. C'est, en fait, la religion devient quelque chose de transitoire, mais le but, c'est cette relation directe avec Dieu. Et le but, c'est que nous soyons tous prêtres, c'est-à-dire que nous soyons que le fondement même de la ville, de notre humanité, soit bâti sur... Ce pectoral du grand prêtre, c'est sur cet ornement du grand prêtre, que ça soit, voilà, nous soyons un peuple prêtre, finalement. Et là, je crois que ça, c'est un peu la vocation d'Israël dans l'Ancien Testament, d'être peuple prêtre, c'est-à-dire de manifester à l'univers entier qui est l'Éternel, et de pouvoir être ainsi une ouverture vers l'Éternel pour toutes les nations. C'est ce qu'on retrouve ici avec les nations qui peuvent enfin rentrer dans le peuple de Dieu, mais c'est je crois qu'il faudrait qu'on reprenne un peu le début parce qu'on est allé peut-être un peu vite. Donc d'abord cette Jérusalem nouvelle, au verset 2, elle descend du ciel, et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait le royaume de Dieu, il est plus à accueillir qu'à bâtir de nos petites mains menues, finalement. Ça c'est quand même une bonne nouvelle, vous voyez, c'est pas la Jérusalem ancienne qui, du coup, à force de bricoler, de machin, peut s'élever jusqu'au ciel. Non, c'est un cadeau, un don de Dieu qui est à accueillir. Et là, je crois que c'est bien ce qui nous est proposé dans l'Évangile. C'est à accueillir, voilà. C'est à accueillir comme une transformation de notre être. Et ça, on retrouve cette idée, je crois, dans l'idée ils mettent une jeune mariée parée pour son époux. On l'a un peu plus loin, il y a marqué... viens que je te montre l'épouse, la femme de l'agneau. Donc il y a l'idée, oui, d'être marié avec le Christ. C'est-à-dire, en fait, de se laisser féconder par ce don de Dieu, par cette façon d'être qu'est le Christ. Et donc, je crois qu'il y a là une image qui peut sembler peut-être un peu crue, mais dans un sens, qui propose un type d'alliance avec Dieu qui n'est plus une alliance, on fait un pacte et puis chacun fait son petit boulot et puis on reste copains. C'est pas ça, c'est plutôt une alliance qui est basée avec l'idée de mariage sur une fidélité, sur un amour, sur une fécondité, voilà. C'est-à-dire que voilà, il faut se laisser féconder par cette façon d'être qu'est le Christ et que ça devienne comme une vie, comme le Christ qui naît en nous. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, hein, surtout dans la mystique rhénane de Maître Eckhart ou dans Gélus Silésius. Ou voilà, il faut que le Christ naisse en nous pour vivre cette nouveauté de vie. Mais ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On l'a dans Paul et puis on l'a dans dans ce que je lisais dans Jean 3 aussi. Alors, au verset 3, j'entendis une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu, il y a marqué dans ce texte. En fait, on l'a entendu hein, dans la Bayard, il met, voilà, la tente. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est quand même plus fort. Parce que la Jérusalem céleste, ça peut sembler très stable, cette énorme ville qui se pose quoi, dans notre être. Alors que non, la tente, il y a quelque chose d'une fragilité, d'une mobilité, d'une errance qui nous rappelle Abraham, qui nous rappelle le Christ chemin, si vous voulez. Donc, vous voyez, cette demeure qu'est la Jérusalem céleste, elle est magnifique, immense, etc., mais elle est comparée à une tente. Donc, l'idée d'une mobilité, d'une quelque chose de ténu aussi, vous voyez. Ça, je crois que moi, je trouve ça très touchant, cette idée d'une demeure qui soit une tente, voilà, que Dieu nous donne. On retrouve le côté très dynamique du Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie, ou le chemin, la fidélité et la vie, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très, très dynamique. Ou alors le verbe qui se fait chair, c'est pas... vous voyez, c'est le verbe, c'est quelque chose qui est, là aussi, dynamique. L'esprit, c'est le vent, c'est quelque chose qui est en mouvement. Il y a vraiment ça, je crois, dans ce texte. Et je crois que c'est quelque chose qui est dit aussi de cette façon d'être qui nous est proposée dans cette nouveauté de vie. Voilà, oui.
Oui, alors, en même temps qu'il y a des choses très simples et fragiles, comme cette tente qui vient se poser au milieu de nous, il y a quand même des différences. J'allais dire, parce qu'on pourrait se dire, en fin de compte, on y est, et qu'est-ce qui change ? Ah ben si, c'est que lorsqu'on va jusqu'au bout, il y a quand même des choses qui changent. C'est justement tout l'aspect ténèbres, tout l'aspect nuit. Regardez vers la fin, les portes restent ouvertes le jour, oui, d'autant plus qu'il n'y a pas de nuit. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et celui de la lune, c'est-à-dire l'idée que il y a des choses dont on a besoin parce que on est dans le handicap de la différence entre Dieu et l'homme, parce qu'on est quand même dans cette structure de péché qui fait que on a besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir survivre. En revanche, lorsqu'on entre dans ce face-à-face, lorsqu'on rentre dans cette union, eh bien, il y a un certain nombre de choses dont on n'a plus besoin. J'allais dire, on a plus besoin de mesures de sécurité parce qu'on est en sécurité. On n'a plus besoin de se cacher ou de se protéger parce qu'on est au milieu de la beauté, de la bonté. Et que d'une certaine façon, si des portes subsistent, si des murailles fortes, épaisses, continue d'exister, c'est simplement parce que quand même les ténèbres doivent rester au dehors, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais en nous doit rester, j'allais dire, sur le pas de la porte. Il y a quand même un certain nombre de choses qui disparaissent, c'est-à-dire qu'un monde ancien s'en est allé, et probablement c'est là que c'est un petit peu compliqué, c'est de savoir comment ça se passe individuellement et personnellement. C'est-à-dire que cette transformation, cette résurrection, certes, elle nous vient du ciel, mais j'allais dire, on a intérêt à y coopérer. Elle ne se fait pas toute seule. On n'a pas qu'à attendre que Dieu nous maîtrise et puis hop, tout va bien. Non, il faut coopérer, j'allais dire, à cette action. Il faut y travailler, il faut s'y préparer, ne serait-ce que par la prière, mais certainement aussi par nos vies. Je crois que ce regard dont tu parlais tout à l'heure, qui était le regard du cœur, ne s'obtient ou s'obtient essentiellement par la prière. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que c'est pas notre cœur qui se met à être bon, c'est notre cœur qui, illuminé de cette présence, a de moins en moins de cette chose noire et sombre que l'on avait trouvée chez Caïn et Abel. Vous savez, on revient toujours à cette chose obscure, hein, cette obscurité qui complique un peu la vie. Toute cette chose noire et ténébreuse, eh bien cette chose-là, en plein soleil, elle n'existe plus. Mais à condition que nous nous tournions vers le soleil, n'est-ce pas ? Donc je crois que, et voilà, il y a beaucoup de choses à tirer de l'Apocalypse, mais certainement aussi que tout ne se fait... C'est une vision de ce qui doit se faire, ce qui peut se faire, qui se fera et qui se fait en nous, mais pas sans nous. Et vous me direz d'ailleurs qu'il faut d'abord, pour pouvoir rentrer dans une telle vision, il faut d'abord la lire. Et puis, comme vous l'aurez vu, ce n'est pas à la première lecture qu'on saisit l'intégralité du message. Et je crois que c'est intéressant d'ailleurs, plus qu'une seule lecture spirituelle comme nous faisons, je crois que c'est un appel aussi au travail de notre intelligence, de tous nos dons, j'allais dire comme toutes nos pierres précieuses, tout est à mettre en œuvre pour arriver à ce résultat. Et au fond, nous sommes richement dotés. Toutes ces pierreries, nous en avons des mille et des cent. Mais à nous de les faire jouer, à nous de les faire briller. Nous aussi, nous devons les tourner vers le soleil pour qu'elles étincellent de mille feux. Et j'ai envie de dire, il en est ainsi de toute la Bible. C'est-à-dire que, là encore, le trésor de notre humanité réside aussi dans ce livre, comme ce dernier chapitre nous le montre, à condition que nous le mangions, comme une autre page de l'Apocalypse, que nous en mangions toutes les pages. C'est-à-dire que, et ce n'est pas moi qui vais vous dire que la lecture de la Bible est une chose essentielle, mais non suffisante. Il faut également prier, il faut, je crois, aussi partager. Je crois qu'il faut aussi dialoguer, parce que, attention, comme vous le voyez bien, il n'y a rien de pire qu'une interprétation exclusive et trop personnelle qui nous ferait peut-être passer l'essentiel. Et c'est, je crois, à la fois par notre prière, mais aussi à l'écoute de l'autre, que nous entendons les plus beaux messages. Donc voilà qui nous donne du réconfort et qui nous pousse à continuer ce travail.
Oui, mais ça, je crois que tu as tout à fait raison. En particulier la vie avec les autres, ça, il y a quelque chose, je trouve, qui est assez beau là, dans ce verset 3, en fait, où je suis toujours, en fait, c'est que il y a marqué « Dieu avec les hommes » ou « Dieu avec eux ». Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, en particulier à Noël, de l'Emmanuel, Dieu avec nous, mais là c'est devenu « Dieu avec les hommes » hein, et « Dieu avec eux ». C'est ça, je trouve ça, c'est quand même un déplacement qui est quand même assez fort. Et puis contrairement à ce qui est marqué, « Ils seront son peuple », ben non, dans le texte grec il y a marqué « Ils seront ses peuples ». C'est-à-dire que du coup il y a une transformation, c'est pas simplement un peuple, voyez, on passe d'abord à une ouverture au peuple, et c'est déjà tout un programme, une ouverture donc au peuple avec leur culture, avec peut-être même leur religion finalement. Et puis c'est pas simplement le Dieu avec nous, c'est même le Dieu avec eux, c'est-à-dire des gens qui sont pas comme nous, voilà. Et ça, c'est très très fort, et je trouve que ça ouvre...
Tu vois de l'interreligieux, là
hein? Ben, moi, j'y vois volontiers de l'interreligieux, mais en tout cas, au moins de l'interconfessionnel. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais, c'est dans le dialogue, la pluralité, finalement, que peut, à ce moment-là, se sentir la grandeur de Dieu Et c'est justement, comme tu le disais, le fait que Dieu est le Dieu de chacun, ça fonde quand même un vrai respect et une vraie universalité, voilà, possible. Alors, ce n'est pas du relativisme, c'est-à-dire qu'au sens où bon, tout se vaut, etc. Non, car il y a aussi très fermement là-dedans un programme. Quand il y a marqué, voilà, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort, il n'y en aura plus, de pleurs, de cris, de peines. C'est quand même un programme éthique aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses, voilà, ça, c'est plus possible. Oui, je crois qu'effectivement, Jean est quand même parmi les plus ouverts, et parmi les plus libéraux des auteurs du Nouveau Testament, en particulier dans ce fameux passage de la lettre de Jean, hein, où il y a marqué « Dieu est amour, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ». Il faut quand même faut voir ça, ce que ça représente, si vous voulez. « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ». Voilà. Donc ça, je veux dire, on peut très bien l'appliquer quelqu'un qui se croit athée, finalement. Ce n'est pas de la récupération, mais on peut dire quelque part, forcément, quelqu'un qui est athée par sa tête, quelque part, quand il est capable d'un vrai geste de compassion, quand il est capable d'avoir du cœur ou des entrailles, dirait la Bible, à ce moment-là, c'est que quelque part, Dieu l'a rejoint et on peut reconnaître dans ce frère, cette sœur, oui, un frère et une sœur, c'est-à-dire la trace même de cette Jérusalem céleste, de cette vie de Dieu qui est présente en lui et qu'il est dans cette dimension-là enfant de Dieu. Alors, je ne veux pas dire que l'éthique suffirait et qu'il suffirait finalement, tout l'évangile, c'est d'être sympa avec ses copains. Non, c'est plus que ça. L'évangile, c'est bien sûr l'annonce que Dieu est amour et qu'il faut s'ouvrir. Comme tu le disais, il faut s'ouvrir à ce renouvellement de l'être qui est en Dieu et que ça se fait par la prière, par la méditation de l'Écriture, par le dialogue avec les autres, oui. Donc, celui qui est athée par sa tête, qui ne prie pas, qui ne médite pas l'Écriture, j'allais dire, c'est comme un handicapé, mais nous le sommes tous, dans un certain sens, handicapés. C'est-à-dire qu'il se prive de cet outil de l'intelligence, de la réflexion et de ce dialogue avec les générations fantastiques à travers toute la profondeur d'interprétation de la Bible, des dialogues théologiques, à travers cette prière aussi qui est ouverture, donc consciente, délibérée, volontaire au meilleur, à Dieu. Mais ça n'empêche, je crois qu'on peut discerner dans un athée profond, bien entendu, hein, les traces de la vie même de Dieu. Voilà, c'est à ça que nous invite le Christ dans reconnaître que, voilà, en tout homme, son prochain.
Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, en effet, sur ce fameux verset que je n'avais pas vu. Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes, il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Je ne peux pas m'empêcher de penser à des hommes et des dieux. Ce film qui vient de recevoir quelques Césars et qui a été vu par quelques 3 millions et quelques personnes et dont on me dit que le DVD va probablement faire qu'il sera diffusé à des dizaines de millions de personnes. Ce film donc de Tibérine qui tente au travers de la guerre et de la violence de nous montrer que l'amour dépasse les religions, j'allais dire, que l'amour seul l'emporte et qu'il y a une théologie des religions qui reste à faire, c'est-à-dire une théologie du dialogue des religions. Et c'est un sujet très grave aujourd'hui, parce que il est vrai que nous sommes tout contents, catholiques et protestants, de pouvoir passer tant de soirées, tant de belles soirées ensemble, et ça nous paraît tellement évident maintenant que nous le faisons. Et bien, c'est pas encore gagné, vous le savez, entre chrétiens, musulmans et juifs. Alors, beaucoup de progrès a été fait entre juifs et chrétiens. Avec l'islam, c'est un pan entier de notre travail qui reste à découvrir, avec sans doute bien des incompréhensions et des méconnaissances. Mais je trouve que de tels passages doivent en tout cas nous inviter à réfléchir au sens de tout ça. Et en effet, se montrer extrêmement précieux dans les relations humaines et dans le sens de la religion par rapport à Dieu, de quelque église que nous soyons. Et Tous convaincus que le Christ est indépassable, nous comprenons aujourd'hui, et c'est je crois assez nouveau, que les autres religions ont quelque chose en commun. Et je ne peux m'empêcher de penser à l'esprit d'Assise, puisqu'il y a 25 ans, je crois, à Assise, la mère patrie de François, Saint François d'Assise, qui, je crois, a su marquer le monde par la paix qui émanait de lui, il y a eu une première grande rencontre de ces grandes religions. Et Benoît XVI va s'y rendre en octobre pour fêter l'anniversaire cette année. Et je crois que dans le monde que nous sommes en train de découvrir, parce qu'un monde nouveau est en train de se mettre en place, ce genre de travail devient une mission peut-être assez prioritaire pour nous tous. Alors je suis très content de voir qu'un livre aussi étonnant, aussi dur, aussi mal compris que l'Apocalypse peut nous receler des versets d'une richesse inconnue. Voilà, je...
Alors moi, je trouve un peu la même trace aussi au verset 12. Vous voyez, il y a un rempart, d'accord ? Et il y a 12 portes, en fait.
Ah oui.
Et il y en a 3 à l'Orient, 3 au Nord, 3 au Midi, 3 à machin. C'est-à-dire qu'en fait...
Le monde entier.
D'où qu'on vienne, voilà, d'où qu'on vienne, ben, on a encore 3 portes pour entrer. Il y a déjà, ça c'est une idée qu'on retrouve quand même assez souvent dans toutes les religions finalement, de dire que la religion c'est un peu l'idée de monter sur une montagne. Bon, on monte de là où on est et puis finalement quand on arrive au sommet de la montagne, on se retrouve tous les copains qui sont montés par un autre chemin. Là c'est un peu le même truc finalement, vous voyez, il y a 12 portes. L'humanité tout entière, finalement, elle est sous le... Là, le chiffre 12, il revient sans arrêt hein, dans ce texte. Il y a le 12, il y a le 144, il y a le 1200, etc. Hein, le 12000 stades. Le chiffre 12, ça vient dire, à travers le 3... Bon, c'est même, à l'époque, on n'avait même pas le début de l'idée de la Trinité, si vous voulez. Donc, c'est même pas ça qui est en cause. Hein. C'est plutôt le chiffre 3... Tu crois qu'il y avait Trinité ? Non, il n'y a pas de Trinité à cette époque.
Un peu l'idée, quand même, un peu l'idée, voyons.
Non, c'est venu un siècle et demi plus tard. Mais si vous voulez, si on a développé ces dogmes de la Trinité, ce qui est tout à fait largement pas stupide du tout, c'est parce qu'en fait, il fallait trouver le chiffre 3, si vous voulez, parce que Dieu est esprit, c'est marqué partout. Pourquoi on compte 2 personnes pour Dieu et pour l'esprit ? Bon, je veux dire, après, il faut trouver 3 personnes. Voilà, il faut trouver 3 personnes. Parce que le chiffre 3, depuis, je dirais, 1000 ans avant les premières écritures des premiers livres de la Bible, depuis la fond de la Mésopotamie, le chiffre 3 est un chiffre de Dieu, si vous voulez, parce que c'est la seule figure géométrique stable. Tous les premiers charpentiers venus savent qu'il n'y a que le triangle qui est une figure géométrique indéformable, un carré ou un pentagone, ou n'importe quelle autre forme géométrique, en fait, si les ficelles sont un peu détendues, on peut le déformer. Le triangle, non, ça tient bien. Donc, le chiffre 3 a toujours été le chiffre de Dieu, et le chiffre 4, ça a été le chiffre du monde, parce que, il y a les 4 points cardinaux, il y a les 4 éléments, c'est l'eau, le feu, l'air et la terre. Il y a les humains ont 4 membres en général,
pour ceux qui ont la chance.
Les 4 évangiles, ils sont 4 pour ça aussi d'ailleurs. Hein. Ça, c'est plutôt. Il y a 4 évangiles parce qu'il fallait ce chiffre 4. Mais donc le chiffre 12, ça évoque une humanité, oui, ça évoque. Et c'est là qu'on retrouve bien la vie en ce monde, vous voyez. On n'est pas dans le chiffre 3 partout, comme si la Jérusalem céleste, elle était entièrement sous le signe du 3. Non. C'est sous le signe du 12, c'est-à-dire que c'est bien notre humanité, comme les 12 tribus d'Israël, c'est des vraies tribus, des vrais bons hommes, des vraies bonnes femmes, c'est nous, notre vie telle qu'elle est, avec la vaisselle à faire, avec le travail, avec les cheveux qui tombent, les cheveux qui poussent, qu'il faut couper, c'est avec notre vie telle qu'elle est, mais transformée par ce 3, cette divinité qui s'incarne dans notre être, dans notre souffle, dans notre vie. Donc on retrouve ce chiffre 12 Et finalement, il y a 12 portes. Donc finalement, pour toutes les sortes d'humanité. Et quand on arrive, bon, de là où on arrive dans vers, on est mis en chemin, on allait dire par le Christ, mais bon, il peut y avoir donc des traditions du christique dans différentes traditions. On arrive par son côté, voilà. Et ben, on peut entrer. Il y a encore 3 portes, c'est-à-dire qu'il y a encore la plénitude de la divinité dans le chemin de toutes les directions. Voilà. Et ça, c'est quand même une annonce d'une ouverture incroyable, une ouverture, c'est le cas de le dire, au cheminement des autres, de se dire ben, finalement, voilà, le projet de Dieu, c'est qu'on se retrouve ensemble, comme prêtres ensemble, comme co-prêtres finalement, dans cette bonne entente, dans cette bonne union. Ça, c'est une idée qu'on retrouve aussi tout à fait dans les lettres de Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, avec l'idée du corps. On en parlait, mon collègue James Woody en parlait dimanche dernier. C'est un texte très connu, hein. C'est une comparaison de l'humanité comme un corps, avec en même temps les vocations personnelles de chacun. Il y a un œil et un pied. Bon, si tout le monde devait être dans le même moule, que des yeux, que des pieds, ce serait quand même... la vie serait nettement plus dure. Donc il y a des vocations, des peuples différents, des façons d'être différentes. Et à travers ce respect de la diversité, cette compassion mutuelle, ce lien entre nous que réalise le Christ, eh bien, on se retrouve dans une humanité réconciliée. Et que c'est ça qui est, le Christ ressuscité. Hein, voilà.
Oui, il reste marque quand même que la lecture que nous en faisons depuis le début, vous l'aurez compris, est une lecture plutôt optimiste et plutôt positive. Il y a quand même certains éléments, là on va un peu se chercher des poux, si j'ose dire. Il y a quelques éléments dans les textes qui donnent prise à d'autres interprétations plus pessimistes. Ah. Je pense notamment au dernier verset quand même. Hein. « Rien ne de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Je veux dire par là, je prends exprès, hein, on ne va pas faire de fondamentalisme, ce n'est pas un verset qui va nous faire changer toute la théologie. Mais il y a des éléments dans l'Apocalypse de séparation. Je tiens à rappeler que l'auteur, s'il n'est pas Jean, et de mon point de vue n'est pas Jean, parce qu'il est beaucoup moins grec que le livre de Jean, il est plus juif. Et il y a quand même une idée de séparation qui affleure assez souvent. Et il y a quand même l'idée, malgré tout, hein, d'un ancien monde et d'un nouveau, et aussi de ceux qui sont élus et de ceux qui sont damnés. Enfin, je ne vais pas faire rentrer des catégories d'enfer et de paradis qui n'existent point encore, mais en tout cas, ça donne prise, toutes ces images, hein, tout ce qui passe par la flamme, tout ce qui est brûlé, tout ce qui va dans le fleuve de feu, etc. Il y a quand même des éléments de l'apocalyptique qui sont extrêmement, et de l'apocalyptique juive, hein, l'abomination des abominations, l'impureté, la souillure, le péché. Il y a toute une vision extrêmement négative qu'on ne peut quand même pas évacuer trop vite. Et notamment ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, de même que tous ceux qui sont idolâtres, assassins, renégats, dépravés, impurs, sorciers.
C'est le verset 8, ça.
Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, quand même, il y a des choses un peu dures à avaler. Alors, qu'est-ce que tu en fais ?
Oui. Ben, là, c'est effectivement la question de savoir comment on fait avec ces contradictions internes qui sont dans l'Écriture. Oui. Donc la question, c'est de savoir quelle clé on prend, quel pivot central on prend qui servira de clé d'interprétation à tout le reste. Alors on peut effectivement prendre les derniers mots de Apocalypse 21-27 en disant voilà, il y a ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau, ben ça c'est bonne pioche.
Les purs.
Et puis ceux qui sont pas inscrits, ben c'est pour eux, ben on est désolé les gars, mais vous êtes pas marqués quoi. Et donc ça c'est ce que, ben, c'est par exemple une lecture que faisait par exemple un Calvin par exemple, avec sa double prédestination, Mais lui présentait la double prédestination. Bon, moi, je ne vais pas du tout défendre ce truc parce que c'est... Bon, d'abord, moi non plus. Je ne suis pas calviniste. Mais lui, il disait que c'était une... Bon, ça, il se basait sur des versets comme ça qui existent, effectivement. Hein, c'était tout à fait biblique, mais... Il disait, c'est une doctrine très joyeuse. Ça veut dire, c'est une dépréoccupation de son propre salut, en disant, ben écoutez, faites confiance à Dieu. Voilà. C'est la question de votre salut, savoir si vous êtes inscrit dans le livre de vie, pas dans le livre de vie. Vous êtes, c'est une mauvaise façon de placer son existence. La question de l'existence, c'est le jour d'aujourd'hui, de vivre l'aujourd'hui de la rencontre de la vie avec Dieu, savoir si ensuite, comment Dieu va faire avec le salut dans la vie future. C'est son problème, sa responsabilité, vous en occupez pas, de toute façon c'est déjà réglé. Donc voilà, c'est plus la question. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant, car si on vit en se disant est-ce que je vais être sauvé, est-ce que je vais avoir le salut en faisant ceci, cela, on est encore dans une logique de l'égoïsme en fait. En se disant il faut que je soigne mon petit salut, aïe aïe aïe, si je fais pas ceci, si je fais cela, machin, je serai sauvé, pas sauvé. En fait, on reste dans un égoïsme en se disant bougre de bigre, comment est-ce que moi je peux être sauvé et avoir mon salut éternel? C'est de l'égoïsme en fait. Et ça, on est dans une dynamique mauvaise, néfaste. C'est ce que voulait dire notre brave Calvin, mais je crois que c'est mal vu, c'est inaudible. Donc comment lire ces versets-là? Eh bien, je partirais plutôt moi de cette confiance justement dans l'amour de Dieu. Hein, telle serait la part du vainqueur, ou alors voilà, c'est le Dieu avec les humains, le Dieu avec les hommes, voilà, du verset 4. C'est pour les premiers chrétiens, hein, quelle est la clé de lecture de l'écriture tout entière? C'est, si on regarde les catacombes de Rome par exemple, c'est le Christ berger. C'est le Christ berger qui va rechercher la brebis perdue. La brebis perdue, elle ne confesse pas ses péchés, elle ne fait pas acte de contrition, de repentance, elle ne marche pas sur les genoux en récitant des patères et des ave jusqu'à en plus finir pour que le berger aille la chercher. Non, il y a marqué, bien entendu, le berger qui est Dieu, qui est le Christ, voilà, il va partir chercher sa brebis perdue. Vous pouvez aller lire Luc 15. Il va chercher sa brebis perdue, il va la rechercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Il n'y a pas une seconde l'idée qu'il ne pourrait pas la retrouver, non. C'est bien entendu la volonté de Dieu de sauver chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Il va nous rechercher jusqu'à ce qu'il nous retrouve, chacun individuellement. Dieu est Dieu, c'est quand même pas n'importe qui, j'allais dire. S'il veut quelque chose, ben on nous dit qu'il est le Tout-Puissant. Il est peut-être pas, je ne pense pas qu'il soit le Tout-Puissant dans le temps présent, mais l'Apocalypse nous dit qu'à la fin des temps, justement, la toute-puissance de Dieu sera manifestée, sa volonté sera accomplie. Donc, la longue patience de Dieu est notre espérance et notre salut, dit Paul, ou je ne sais pas qui. Voilà, c'est-à-dire que Dieu a le temps pour lui. Il a décidé de venir chercher la brebis perdue, même la plus perdue parmi les plus perdues. Il va la rechercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Et le Christ ne suppose pas une seconde qu'il n'arriverait pas à retrouver sa brebis perdue. Donc, il finira par retrouver tout le monde. Donc, ça, c'est la lecture des premiers chrétiens. Quand on regarde, ils présentent Jésus comme le berger avec une brebis sur les épaules. Souvent même dans les catacombes, il est représenté avec une chèvre, un bouc sur les épaules. Et donc, c'est un mix entre un autre passage qui peut sembler terrible, Matthieu 25, le jugement des nations, où on sépare les brebis d'avec les boucs, mais quand on regarde de près ce texte, on est tous à la fois les brebis et les boucs. Mais ça, c'est un grand classique de la Bible. Et par conséquent, ces textes avec la figure des renégats, des dépravés, existe-t-il un seul homme qui n'est pas, au moins, puisque tu parlais des ongles, qui étaient je ne sais plus quelle pierre, au moins un tout petit peu par un bout d'ongle, un renégat? Jamais manquer la moindre de ces petites paroles, c'est impossible. Il y a du renégat en chacun, dépravation. Bon, je ne regarde personne, je ne connais pas votre vie présente, votre vie passée, mais qui n'a pas, je veux dire moi je suis pur, je suis assassin bien sûr, on n'a tué personne. Jésus nous dit, celui qui dit à son frère Raca est un assassin, un meurtrier. Donc je veux dire, voilà, on est dans ce schéma. où nous sommes tous, voilà, bien sûr, à la fois justes et pécheurs. Donc, quand on nous parle des temps brûlants et de feu de soufre, c'est la seconde mort, c'est pas être rayé du livre de vie. Le feu et le soufre, c'est des agents de purification. Donc là encore, il y a l'idée que Dieu nous aide à nous purifier, à nous débarrasser de ce qui en nous est de l'ordre de l'infidélité, de l'ordre de l'instinct meurtrier, qui est de l'ordre du mauvais. Voilà. Donc on fait, non, c'est une promesse d'amour, je lis ça, si vous voulez, à la lumière de Luc 15, de l'histoire de la brebis perdue. Eh bien, bien entendu, si Dieu est amour, si Dieu efface la mort, si Dieu efface les pleurs, le cri et la peine, bien sûr, c'est le projet de Dieu, même pour le pécheur, à commencer par les pécheurs, c'est ce qu'on voit en Christ. Donc, le renégat, le dépravé, l'assassin, ben, il va chercher, ben, il va aller le chercher, il va le porter, il va essayer de le ramener, il va y mettre sa patience, il va y mettre son temps jusqu'à ce que cet imbécile puisse quand même un peu s'ouvrir à cette dynamique de vie, à ce supplément d'être, supplément de création. Il va essayer de le débarrasser de ça, voilà. Et donc, voilà toute la question de savoir quel verset on prend pour servir de clé d'interprétation. Oui, on peut prendre ces versets terribles et en faire des lectures menaçantes. De dire, ben non, la brebis perdue, bien sûr, il faut se reconnaître comme perdu pour être considéré par Dieu comme brebis perdue. Je trouve que c'est extrêmement arrogant. Donc, l'amour de Dieu serait à la remorque de ma capacité à m'ouvrir à Dieu. Donc Dieu serait finalement moins aimant. Il faudrait que moi j'aime le premier Dieu pour que Dieu puisse m'aimer. C'est tout le contraire de l'Évangile, si vous voulez. Donc c'est pas possible. Non, je crois qu'on peut prendre la brebis perdue comme clé d'interprétation et donc ne voir là aucune menace, mais y voir au contraire la promesse d'un salut de Dieu qui n'est peut-être pas simplement une bienveillance, pas simplement un supplément d'être qui m'est proposé, mais comme une purification qui vient me débarrasser de mon péché, de ce qui ne va pas. Non ?
Oui, j'aime beaucoup ton enthousiasme. Ah. Et j'y reconnais celui que nous avions déployé à la lecture de saint Paul, autre grand auteur, interprété de manière si différente par des uns et par des autres. Et je crois que c'est ce principe-là qu'on doit retenir ce soir pour toutes nos lectures bibliques. D'abord, le principe quand même relatif. Et je replaide à nouveau pour une lecture plurielle et pour une lecture à plusieurs pour ne pas s'enferrer dans des impasses ou dans des exclusivismes. Je me souviens de Paul qui a été tour à tour traité de machiste, qu'est-ce qu'on disait des sens, de radical, de tout ce qu'on veut. Enfin bon. Et lorsque nous avons lu un certain nombre des textes, nous avons découvert toute la richesse d'interprétations possibles, une richesse qui s'entremêlait et qui permettait au fond dans le dialogue justement d'en avoir toujours plus. Eh bien, ce soir encore, l'Apocalypse qui paraît pourtant si entier dans ce radicalisme un peu fantasmagorique, nous recèle bien des trésors et bien des discussions. Et je crois que on va pouvoir poursuivre. La prochaine fois, on se retrouvera du côté de Ninive. Alors, on va retrouver un peu notre milieu de l'Ancien Testament. On va aller voir si, au bout de 40 jours, ça tombera bien pour tous ceux qui sont rentrés dans le chemin de Carême, la ville sera retournée ou détruite. Et ça sera une autre façon de voir aussi, hein, le sac et la cendre, de voir un peu les choses un peu dures. Et puis, on terminera au mois de mai, début mai, à Athènes, voilà, hein, ville qui souffre d'ailleurs aujourd'hui, hein, mais ville encore présente dans notre univers, ville des philosophes bien sûr, et on retrouvera notre ami Paul à travers la lecture des Actes. Ce sera une belle façon, je crois, de conclure cette nouvelle année. Donc cité biblique après l'année Paul et après la guerre et la paix. Et très bonne soirée à tous. On se retrouve donc dans un mois. Merci Marc et on se retrouve à l'Oratoire du Louvre. Bonne soirée.
Merci à chacun d'entre vous.